Avec Monseigneur Jacques Perrier.
Hier, nous étions déjà à Lourdes avec le pape Jean-Paul II. Nous y revenons au 15 août 2004, aussi pour le 15 août. Dans une émission précédente, une chronique précédente, j'avais dit que le fait même que le pape vienne à Lourdes pour le 150e anniversaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception était un acte symboliquement extrêmement puissant, car la définition, évidemment, s'est faite, d'ailleurs, paraît-il, dans un grand concours de peuple et avec magnificence dans la basilique Saint-Pierre. Et donc que le pape vienne à Lourdes, lieu d'une révélation privée que l'Église reconnaît, authentifie, mais dont elle n'a jamais fait un article de foi, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant, et on peut dire que c'est quelque chose qui est unique parmi les sanctuaires mariales, d'avoir ce lien entre une affirmation dogmatique et solennelle de l'Église, et pas simplement quelque chose de dévotionnel, mais voilà, comme Notre-Dame de ceci ou de cela, et une révélation privée. Privée, évidemment, l'expression a quelque chose d'un peu pittoresque, étant donné que Bernadette a toujours été en public, et de ce temps-là, il est venu des centaines de millions de gens. Mais c'est quand même une révélation privée. Ce n'est pas un acte officiel. Bon. Donc, il vient, c'est moi-même qui l'avais invité, lors de la visite ad limina, que les évêques font, vous savez, régulièrement, et pendant la visite ad limina, il y a un entretien en privé avec le Saint-Père. Et donc, je m'étais permis de lui faire cette invitation, bon, et lui disant que, ben, comme il était allé à Jérusalem en l'an 2000 et qu'on lui avait laissé du temps pour prier, on n'avait pas additionné les discours, les fêtes, etc., eh bien, on ferait pareil. Il était déjà très fatigué. Bon. Et donc, au moment même, il n'avait pas trop répondu. Et puis, bon, finalement, quelques semaines après, on a fait savoir que le pape était d'accord, et qu'il fallait préparer quelque chose pour Lourdes, avait-on dit à l'organisateur des voyages, Mgr Boccardo. Et l'annonce a été retardée le plus possible, vu l'état de santé du Saint-Père, on ne savait pas si ça serait possible. Donc finalement, il y a eu 110 jours au total entre l'annonce et sa venue. Pour ce genre de réalisation, c'est assez court, parce que c'est quand même assez compliqué, où les sanctuaires ont une part, mais n'ont qu'une petite part, parce que finalement, entre les services romains et puis la France, la préfecture, l'État, voilà, la police, tout ça c'est assez compliqué. Enfin, ça c'est fait. Voilà. Et donc, le pape vient, en gros, ça a duré 24 heures, et il logeait à l'accueil Notre-Dame, parce que vu son état de santé, c'était plus facile, plus commode. Bon, ça s'est négocié très, très facilement, etc. Bon, bien. Et il est venu trois fois à la grotte. Il est venu d'abord à l'arrivée. Il est venu ensuite au début de l'après-midi du 14 pour lancer le chemin de croix, la récitation du rosaire, je dis n'importe quoi. Et il est revenu juste avant de partir, le 15, en début d'après-midi. Alors, quand il arrive à la grotte, après avoir traversé la ville de Lourdes, là, il était passé devant l'ancien presbytère, la place Péramale, devant l'église, il était descendu par la rue de la grotte. Alors que la première fois que Jean-Paul II était venu, il était descendu par le boulevard de la Grotte. Il était allé tout de suite. Il avait dit au maire à l'entrée de la ville, « Je vous remercie beaucoup de votre accueil, mais enfin, moi, je vais à la Grotte. » Bon. Il essaye de tenir à genoux sur un prie-Dieu qui avait été fait aux côtes, qui avait été envoyé par les services. Pour un homme en bonne santé, c'est impraticable. Alors, a fortiori, dans l'état où il était, évidemment, il n'a pas tenu longtemps. Donc, c'est écroulé, il fallait plus le relever le soir. Donc on a cru qu'il avait pas un malaise, tout simplement que n'importe qui ne serait pas resté longtemps sur ce prie-Dieu. Et puis il avait déjà d'énormes difficultés de parole, donc il fait lire son message par le cardinal Etchegaray. Arrivant à la grotte de Massabielle, je souhaite adresser mon premier salut aux malades, qui viennent toujours plus nombreux dans ce sanctuaire, à ceux qui les accompagnent, à ceux qui les soignent et à leurs familles. Je suis avec vous, chers frères et sœurs, comme un pèlerin auprès de la Vierge. Je fais mienne vos prières et vos espérances. Je partage avec vous un temps de vie marqué par la souffrance physique, mais non pour autant moins fécond dans le dessein admirable de Dieu. Avec vous, je prie pour ceux qui se sont confiés à notre prière. Pour mon ministère apostolique, j'ai toujours eu une grande confiance dans l'offrande, dans la prière et dans le sacrifice de ceux qui souffrent. Je vous demande de vous unir à moi au cours de ce pèlerinage pour présenter à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, toutes les intentions de l'Église et du monde. Chers frères et sœurs malades, je voudrais vous serrer dans mes bras, l'un après l'autre, de manière affectueuse, et vous dire combien je suis proche de vous et solidaire de vous. Je le fais spirituellement, vous confiant à l'amour maternel de la Mère du Seigneur, et lui demandant de vous obtenir les bénédictions et les consolations de son Fils Jésus. Alors ça, c'est le texte qui a été remis, mais il y avait aussi l'expression « je suis arrivé au terme de mon pèlerinage ». Et alors, l'expression, comme il fallu le relever, bon, on a cru qu'il avait un malaise, on a dit « il est mort, il est arrivé à la fin de son pèlerinage ». Non, un pèlerinage, c'est d'aller quelque part, et puis voilà, on revient d'habitude assez rapidement. Bon, donc, on arrive à Compostelle, après avoir marché des mois entiers, ou on arrive à Rome, ou on arrive à Jérusalem. Bon, donc je suis arrivé au terme de mon pénal. Alors, bon, je crois que ça n'avait pas, c'était ce sens-là, mais ça avait. Bon. Le lendemain, donc, la messe. Alors, l'homélie a été très courte aussi. Chers frères et sœurs, de la grotte de Massabielle, la Vierge Immaculée nous parle, à nous aussi, chrétiens du troisième millénaire. Mettons-nous à son écoute. Écoutez d'abord, vous les jeunes, vous qui cherchez une réponse capable de donner sens à votre vie. Vous pouvez la trouver ici. C'est une réponse exigeante, mais c'est la seule réponse qui vaut. Et en elle réside le secret de la vraie joie et de la paix. De cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous, les femmes. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme. À notre époque, tentée par le matérialisme et par la sécularisation, être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous, les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. À vous, frères et sœurs, je lance un appel pressant pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, pour que la vie, toute vie, soit respectée depuis la conception jusqu'à son terme naturel. La vie est un don sacré dont nul ne peut se faire le maître. La Vierge de Lourdes a enfin un message pour tous. Le voici. Soyez des femmes et des hommes libres. Mais rappelez-vous, la liberté humaine est une liberté marquée par le péché. Elle a besoin, elle aussi, d'être libérée. Christ en est le libérateur. Lui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Défendez votre liberté. Chers amis, pour cela, nous savons que nous pouvons compter sur celle qui, n'ayant jamais cédé au péché, est la seule créature parfaitement libre. C'est à elle que je vous confie. Marchez avec Marie sur les chemins de la pleine réalisation de votre humanité. Et la troisième fois où il vient à la grotte, c'est donc en début d'après-midi. Donc il n'y avait personne, il n'y avait que les cardinaux, quelques cardinaux qui étaient là, simplement, bon, à distance. Bon. Il est resté un moment en prière de façon tout à fait silencieuse. Et puisqu'il y avait des écrans un peu partout dans le domaine, l'image s'est vue un peu partout, et tout le monde s'est tu, y compris à la salle de presse. Voilà, et donc c'était le 15 août, et donc il décède, comme vous savez, aux premières vêpres du dimanche d'après Pâques, dimanche de la miséricorde. Il se trouve d'ailleurs qu'un de ses successeurs, le pape François, meurt à peu près dans les mêmes circonstances, puisque lui décède le lundi de Pâques. Voilà. Demain, eh bien, on évoquera Benoît XVI en 2008.